Bonjour chers amis auditeurs, aujourd'hui sur le plateau de Écho d'Église, je reçois Pierre Masse, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et Erline Tolli, bonjour Erline.
Bonjour.
Falimendieri en albanais.
En albanais, falimendieri.
Alors Pierre Masse, ça fait un petit moment que vous n'étiez pas venu sur ce plateau, mais à chaque fois que vous venez, vous nous parlez de solidarité. Et donc, à ce niveau-là, aujourd'hui, nous allons parler de la fraternité paroissiale.
Oui.
Alors Pierre, je connaissais la solidarité paroissiale à Cahors, mais qu'est-ce que la fraternité paroissiale?
Alors la solidarité paroissiale qui existait, faisait essentiellement, et qui était à l'initiative surtout de Michel Brun, faisait essentiellement des colis de Noël, soit pour des familles en difficulté, soit pour des personnes isolées à qui elles portaient un petit bouquet ou un petit geste au moment de Noël, de fraternité. Et il y a 14 mois à peu près, en novembre 2019, sauf erreur, on a créé la fraternité paroissiale, à laquelle d'ailleurs la solidarité paroissiale s'est intégrée. Et fraternité paroissiale qui est partie essentiellement pour répondre à l'appel du pape François, qui dans tous ses messages rappelle que le premier commandement c'est aimez-vous les uns les autres et commencez par aimer les plus pauvres. Voilà pourquoi on a relancé ça.
Aller dans les périphéries et aimer les plus pauvres.
Aimer les plus pauvres, aller aux périphéries. Et comme, ma foi, une vie antérieure, j'ai été au Secours catholique, et que je pensais qu'il y avait beaucoup à faire, que j'étais occupé d'un certain nombre de familles et de migrants dans Cahors, eh bien, on a lancé ça pour être plus fort. Le but de la fraternité paroissiale, c'est essentiellement de regrouper tous les paroissiens, en particulier ceux qui adhèrent déjà dans des associations caritatives, qu'elles soient à politique, à religieuse, comme on veut, mais qui sont à la paroisse, pour que le jour où on a un besoin pour quelqu'un, on sache qu'on peut s'adresser à tel ou tel endroit.
Oui, enfin, si je comprends bien, ce sont des personnes qui font partie soit des Restos du Cœur, par exemple, je nomme ceci, soit du Secours catholique, soit d'autres associations caritatives, et qui sont paroissiens.
Voilà, ce sont des paroissiens. Ce ne sont pas les associations qui adhèrent à la fraternité paroissiale. Les Restos du Cœur, pardon. Les Restos du Cœur, par exemple, dont vous venez de parler, justement, la personne qui en fait partie, quand je lui ai demandé de venir, m'a dit, mais au Restos du Cœur, on est apolitique, religieux.
Oui, effectivement.
Aconfessionnel. Donc, mais je dis, c'est pas les Restos du Cœur qui viennent à la fraternité.
Oui, oui.
C'est toi, Martine, qui viens à la fraternité paroissiale. Et si un jour on a un besoin quelconque pour une famille, eh ben, nous saurons que on peut s'adresser à toi pour essayer de résoudre le problème. C'est vrai pour ça, c'est vrai aussi bien pour le Secours populaire que pour la Banque alimentaire, la Croix-Rouge,
toutes les associations caritatives
qui sont sur le terrain.
Qui, de toute manière, faisaient aussi quelque chose, ensemble ou pas, au moment de Noël. Et qui font aussi d'autres activités en dehors du temps de Noël.
Oui, oui. J'ai beaucoup souffert pendant longtemps que chaque association avait ses pauvres. Et il ne fallait surtout pas venir toucher à mes pauvres.
Alors, oui, effectivement, Pierre, on connaît tout à fait votre discours. C'est un discours que vous avez tout le temps eu, hein, de toute manière. Depuis que je vous connais, vous avez ce discours qui est très important, parce qu'effectivement, chacun n'a pas son pauvre. C'est vraiment, il faut aller vers les pauvres, quel qu'il soit et quelle que soit l'association. Alors, quelle est la... Vous n'êtes pas tout seul, je suppose, Pierre, dans cette fraternité.
Actuellement, on doit être une cinquantaine à la fraternité. Mais bon, c'est tout... c'est pas une association, hein.
Il n'y a pas de dépôt de statut.
C'est dans la paroisse. Une fraternité qui s'occupe essentiellement de solidarité. Et là, donc, actuellement, on va avoir un listing d'une cinquantaine de personnes que j'espère bien élargir encore beaucoup parce que le paroissien lambda, peut adhérer, il a tout à faire à la solidarité, à la fraternité entre nous dans la paroisse.
Oui, de toute manière, on adhère tous à une fraternité, quelle qu'elle soit, la fraternité paroissiale. On devrait, oui, voilà. Merci Pierre de préciser ce petit détail fortement important. Alors, depuis cette création de la fraternité paroissiale, donc vous me dites il y a 14-15 mois, qui correspond, je pense, avec aussi l'arrivée du père Luc Dangean à la paroisse.
C'est une coïncidence, c'est peut-être aussi la suite de toute l'année du 900e qui a fait que les paroissiens se sont retrouvés, se sont réunis, ont discuté et que ça a créé un certain élan de se retrouver tous ensemble.
Oui, effectivement.
Et bon,
ce 900e a été le départ d'un certain nombre de manifestations et de rencontres assez importantes qui ont pu continuer par la suite, même si l'année 2020 a été un petit peu en demi-teinte avec ce coronavirus. Donc, au niveau des actions que vous avez menées depuis le départ, ou peut-être en amont, mais depuis le départ de cette fraternité, quelles ont été les actions que vous avez menées ensemble ?
Alors l'année 2020 a été un peu difficile, mais d'autant plus difficile pour le public auquel nous nous adressons.
Mmh. Et oui.
Beaucoup plus. Donc il n'y a pas eu là d'arrêt. Au contraire. Il a fallu à ce moment-là répondre. Alors répondre soit à des besoins. Nous, à la fraternité paroissiale, toutes les semaines, on aide des familles comme ça qui ont des besoins. Mais par volonté et par respect des autres associations, on ne fait que les aider sur des produits frais. On n'est pas en concurrence avec les autres.
On les aide par des produits frais.
Produits frais, c'est-à-dire des yaourts, des choses fraîches qu'on ne trouve pas forcément.
Que vous amenez auprès de ces gens-là.
Qu'on amène dans les familles. Et puis après, l'autre grosse action qu'on a eue, c'est d'abord de soutenir des familles, quelquefois dans leur processus d'intégration. Mm-hmm. Hein, une famille qui arrive, qui a eu son rejet d'appel de droit d'asile, demande de permis de séjour, etc. Et qui se retrouve à être logé, souvent n'ayant rien. Donc il faut trouver des lits, il faut trouver des cosy, il faut trouver des cuisinières, il faut trouver etc., etc. Donc c'est tout ce travail-là. Et c'est là que l'intérêt est d'avoir une liste assez grande des gens. Parce que un jour on a besoin de linge de maison. Ben, un appel que j'ai été lancé de linge de maison, c'est arrivé de partout.
D'accord.
Demandez et vous obtiendrez.
Mmh, absolument. Mais cet appel, comme vous dites, qui est-ce qui en est, vers qui arrive cet appel ? Vers vous, vers quelqu'un ?
En général, vers moi, mais ça peut aussi venir d'ailleurs. C'est quelqu'un d'autre, un membre de la radio d'ici d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'occupe beaucoup de familles étrangère, m'a demandé quelque chose, et immédiatement...
Nous ne citerons pas Jacques Allary, par exemple.
Et est-ce que par hasard, tu aurais quelque chose... Et immédiatement, on peut l'aider, ou en tous les cas, lancer un appel pour l'aider. Voilà, ça part d'un peu partout. On ne choisit pas. C'est comme ceux qu'on aide, on ne les choisit pas. Il se trouve, moi, que sur les 5 familles que j'ai pu aider, je les ai toutes rencontrées, ou à Saint-Barthélemy, ou à la cathédrale. Mmh. Et je me dis qu'il y a quelqu'un là-haut qui doit les mettre sur mon chemin. C'est pas moi qui choisis. Mais il y a un appel à un moment donné, et on doit être là pour répondre.
Mais vous aviez... Donc ce sont les actions dont vous parlez sont de 2020, mais vous n'aviez pas mené des actions dans les derniers mois de 2019
Alors, on a répondu à l'appel du pape sur la journée mondiale des pauvres. Voilà, c'est le troisième dimanche de novembre.
Qui correspond à la journée,
et qui correspond aussi
à la journée nationale du secours catholique.
À la journée nationale d'appel de fonds du secours catholique. Mm-hmm. Voilà. Et qu'on a mené d'ailleurs ensemble. Mm-hmm. Alors c'est important, une journée mondiale des pauvres, c'était la troisième en 2019. Cette année, malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu. Mais parce que dans cette journée, c'est la journée des gens en difficulté. À ce titre, par exemple, en 2019, la prière universelle à la messe a été écrite et lue par des gens de la rue. Mm-hmm. Il faut qu'ils soient participants, Il faut qu'ils soient acteurs. Il ne s'agit pas de se plaindre pour eux, etc. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est au contraire de les intégrer, de les amener à être comme nous, des paroissiens, des...
Alors, effectivement, je me souviens de cette journée qui avait été assez fabuleuse. Il faisait beau, d'ailleurs, oui. Ce jour-là, très beau. Et vous aviez installé sur le parvis de la cathédrale une espèce de vélum, une espèce de grande tente. Que se passait-il sous cette tente?
On a commencé par un petit déjeuner le matin, où il y a eu pas mal de monde. Puis on a continué par la messe, qui était intéressante. Et puis après, on avait dit, on va faire juste un apéritif, à la sortie de la messe. Mais ce petit apéritif, c'est continué en fin de compte comme par un repas. Ce qui fait que des paroissiens qui sortaient de la messe sont restés. Et c'est ça l'intérêt. Mmh. Il ne s'agit pas de nourrir les pauvres. Il s'agit de participer, de communier, d'être ensemble avec eux. C'est ça l'intérêt. Et ça s'est terminé ensuite par une projection du très beau film sur le pape François. Le pape François, un homme de parole, que nous avons projeté à la salle de la Bourse, et où il y avait là aussi un certain nombre, même de personnes en difficulté, qui sont venues.
Tout à fait, c'était une très belle journée, mais il y a eu également une autre journée qui a suivi, qui était la clôture du 900e anniversaire de la cathédrale, qui était le 8 décembre 2019, où vous avez également participé.
On a participé, on a aussi invité des gens de la rue à venir à la salle des fêtes, au foyer Valentré, pour participer à ça, tout à fait, parce que s'intégrer dans la communauté paroissiale. Le travail, il est là. Il s'agit pas... C'est pas de l'assistanat, c'est pas de...
il s'agit pas simplement... On en reparlera tout de suite, Pierre, enfin, dans quelques minutes, Pierre, parce que, justement, les accueillis qui deviennent accueillants, les aidés qui deviennent aidants, nous avons sur le plateau Erline Tolly. Erline, quel a été votre parcours? Vous êtes arrivé à Cahors, mais vous veniez de quel pays? Comment vous êtes arrivé à Cahors? Pourquoi vous êtes arrivé à Cahors? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie?
Alors, moi, je viens de l'Albanie. Je me suis marié en Albanie. J'ai épousé une femme musulmane. Et à cause de ça, on était obligé de quitter l'Albanie pour des menaces de menaces de mort de la part de la famille de mon épouse. Et du coup,
son grand-père était imam.
Arrivé en France en 2015, en 25 novembre 2015. On est atterri à Toulouse. Le lendemain, on se retrouve à Cahors. Et comme ça, on s'est installé, on a fait une demande d'asile.
Oui.
Et après, ça a duré pas trop longtemps, on était rejeté de droit d'asile, on avait fait la demande pour avoir un titre de séjour, c'était impossible. Et donc, à ce moment, pendant ce parcours, j'allais à la messe avec mes enfants, tout ça. Et grâce à un ami qui s'appelle Astrid, c'est un Albanais aussi, on a fait la connaissance avec Pierre Mas et sa famille. Et début de ce jour-là, j'ai eu le plus grand soutien donc, de Pierre et de Marie-Françoise. Depuis ce jour-là, on n'a eu que de bonheur.
Donc, je rappelle que vous avez deux enfants, Erline.
Quand on est arrivé, oui, deux.
Voilà, deux enfants qui étaient en bas âge et qui maintenant ont 5 ans de plus.
Oui.
Et donc, vous avez parlé là, à l'instant de problèmes, on va dire, judiciaires, juridiques, autour de votre intégration. Pierre, vous pouvez nous en dire quelques mots avec Erline, cette difficulté qu'il y a eu pour l'intégration et l'arrivée d'Erline et de sa femme.
Erline a eu le parcours classique, demande de droit d'asile, rejet du droit d'asile, appel au droit d'asile, rejet de l'appel, et à ce moment-là, demande d'un droit de séjour. Quand on a déposé la demande de droit de séjour, il avait l'autorisation de la direction du travail, de travailler. Sous réserve que la préfète, c'était encore la préfète, entérine. Il était logé, puisque nous le logions. Et et il avait une offre d'emploi. Donc il avait théoriquement tout pour qu'on le lui donne.
Pour s'intégrer.
Il a fallu attendre 13 mois que la préfète d'ailleurs soit mutée et plus là pour recevoir ordre de quitter le territoire. Là, on a fait appel au tribunal administratif de Toulouse qui a cassé l'arrêté de la préfète donnant l'ordre de lui donner le droit de séjour dans les 2 mois. Au bout de 2 mois, le nouveau préfet lui a renvoyé un ordre de quitter le territoire. On a refait appel au tribunal administratif qui a recassé l'arrêté du préfet avec pénalité par journée de dépassement. Ce qui a fait que, au bout de 2 mois, le préfet est allé en appel de cour administrative à Bordeaux. Et là, ça dure une année à peu près. Et pendant cette année, je ne sais pas pourquoi, une illumination, le Saint-Esprit travaille de temps
le
en
Seigneur
temps.
Seigneur.
Une illumination, j'ai dit, mais un appel n'est pas suspensif. Et on a fait appliquer la décision du tribunal administratif, ce qui fait que le préfet a été obligé de faire un petit chèque de 5000 euros à Erline. Et encore, ça aurait pu être au-delà de ça. Voilà. Donc, et in fine, la cour d'appel de Bordeaux a cassé tous les arrêtés. Et à ce moment-là, il y a eu le droit de séjour et donc le droit de travail. Et ce que je peux dire, c'est que ce qui me fait plaisir dans cette affaire, c'est que 8 jours après avoir eu le droit de séjour, Erling a été embauché, en CDI, bien sûr.
En CDD dans un premier temps.
En CDD d'abord. Et 3 jours après le CDD, contrat transformé en CDI. Ça prouve qu'il y a des gens qui ont envie de travailler. Ils ne sont pas là pour bénéficier d'assistanat ou autre. Non, ils ont envie de travailler et le besoin de travailler.
C'est dans ce sens-là que je voulais arriver justement à propos de l'assistanat dont vous parliez tout à l'heure, Pierre. Donc, Erline, donc vous avez votre permis de séjour, vous avez un CDI. Et votre épouse, qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'elle a un travail? Vers quoi elle s'oriente?
Mon épouse, elle a suivi, elle est en train de suivre une formation. Ça s'appelle, si je ne me trompe pas, dame d'accompagnant auprès des personnes en difficulté.
D'accord.
À l'école du Monta.
D'accord.
Et du coup, c'est quelque chose qu'elle adore de faire, parce qu'elle aime être près des personnes âgées et tout ça, donc elle a une affection vraiment très très particulière, et donc elle est dedans, donc elle veut faire que ça, pour en finir après, doit aller plus loin, pour faire des études, pour être, pourquoi pas un jour une infirmière, pour venir aux besoins, des gens.
Et alors, vous disiez tout à l'heure, on parlait d'accueilli. Vous avez été accueilli, vous avez été aidé, et maintenant vous passez de l'autre, ce qu'on appelle de l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que c'était vous qui aidez maintenant les personnes en difficulté. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, Erline, comment ça se passe quand vous aidez quelqu'un? Est-ce qu'on fait appel à vous? Comment ça se passe?
J'ajoute simplement, avant qu'il réponde, que pendant tout le temps où il n'a pas eu le permis, il a été bénévole dans différentes associations caritatives. Il n'a pas attendu d'avoir réussi, d'avoir le permis, pour aider, pour s'impliquer. Il a le besoin de travailler, de ne pas rester chez lui tout seul à rien faire, etc.
D'accord. Merci Pierre de cette précision. Donc, vous, Erline, maintenant, qu'est-ce que vous faites?
Alors, moi, je porte soutien, je porte de l'aide avec mes bras. Donc, je fais ce que je peux, Donc personne, à part que les Pierre qui me demande, j'ai besoin que tu peux m'aider. Donc je suis toujours disponible de faire.
Donc comment ça se passe, Aline? C'est Pierre qui vous appelle, c'est quelqu'un d'autre qui vous appelle en disant est-ce que tu peux venir nous donner un coup de main sur telle et telle chose à faire?
Alors déjà pendant le temps où il n'avait pas le permis. Il a été souvent appelé pour faire des travaux qu'il était capable de faire, de la peinture un petit peu, ce qui est possible en chaque emploi service. Donc c'est une façon d'avoir un petit peu d'argent à ce moment-là, mais qui a ouvert aussi un peu le réseau, je dirais. On savait que tiens, il y a un gars qui s'appelle Erling qui est un bon bricoleur, un bon truc. Donc ça, et après ben ça continue maintenant. Erling a la chance d'être dans une entreprise où il ne travaille pas les 3 derniers jours de la semaine, vendredi, samedi, vendredi, samedi, dimanche.
Oui, tout à fait.
Donc le vendredi, il est souvent libre et peut, à ce moment-là, aider un petit peu d'un côté ou de l'autre.
Oui, je précise que vous travaillez dans une entreprise qui est en dehors de Cahors.
Ouais.
Et donc, effectivement, vous êtes disponible le week-end.
Pendant que ses enfants sont à l'école.
Pendant que ses enfants sont
c'est ça,
à l'école. Ouais. Très bien. Donc là, c'est une très très bonne, un très très bon exemple d'intégration à travers Erline. Est-ce qu'il y a d'autres actuellement, d'autres personnes qui sont en attente d'être aidées ou que vous, Pierre, ou la fraternité ou d'autres associations, comme ça a été le cas d'Erline, vous aidez ou vous essayez d'aider à travers les papiers ou la mise en place des papiers?
Alors il y en a qu'on aide au cas par cas, et puis ça s'arrête parce qu'ils ont été aidés et ils continuent leur parcours. Il y en a qu'on aide pratiquement tout le temps. Actuellement, moi je m'occupe de deux familles kosovardes par exemple, où il doit y avoir 7 enfants dans les deux familles, et qui n'ont pas grand-chose pour vivre. Donc on peut les aider au niveau des produits frais, comme je disais tout à l'heure. Mais ce qui me paraît important de dire, c'est que il y a un temps pour l'aide, et puis il y a un temps pour la responsabilité. Du jour où Erling a eu le permis de séjour, je dis, oh, maintenant Erling, tu payes ton loyer. Loger gratuitement avant.
Et oui, puisque sans papier,
mais
sans...
Mais puisque maintenant, tu as le permis, ben tu rentres dans la société française et tu t'assumes, non pas pour que je récupère 500 euros de loyer, là, d'autant plus qu'avec 3 enfants, la PL était quand même assez confortable, je dirais, mais pour pouvoir aider quelqu'un d'autre. Ça avait été le cas avec une autre famille albanaise avant, à qui je dis, ou tu restes là et tu payes le loyer, ou si tu préfères, on trouve un autre logement, et moi j'aurai un logement, ce qui s'est produit, puisque le jour où cette famille est partie, Erling est rentré dans l'appartement à ce moment-là. J'ai la chance d'avoir un appartement tampon que je peux mettre à disposition comme ça, mais pour moi l'important c'est que l'assistance ne devienne pas de l'assistana.
Oui, voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ça vous tient à cœur, Pierre, c'est cette entraide qui ne devienne pas assistana, pour bien montrer que c'est pas parce que voilà, c'est pas parce que vous allez aider quelqu'un que cette personne va en profiter jusqu'à plus soif.
Voilà.
On est bien d'accord.
Voilà.
Merci beaucoup en tout cas pour ces deux témoignages très importants. Merci Erline.
Merci.
Alors bonne continuation en France. Est-ce que vous partez un petit peu découvrir la France ou est-ce que vous aimez plutôt rester à Cahors?
Mais moi, vous savez, je suis quelqu'un que j'aime pas trop bouger. J'aime la tranquillité. Donc, j'ai essayé de profiter, parce que déjà, j'ai déjà assez souffert, même à cœur fermé. Il faut faire attention à tout le monde, de ne pas se faire arrêter. Mais maintenant, j'ai pris cette habitude et je n'ai pas envie de trop bouger.
Très bien, ben nous avons une grande chance de vous avoir en tout cas à Cahors, Erline. Merci beaucoup. Merci Pierre de nous avoir parlé de la fraternité paroissiale, qui était qui pouvait s'appeler avant Solidarité paroissiale avec Michel Brun, qui en a été la cheville ouvrière pendant plusieurs années. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci, Imanol, pour l'enregistrement. Et à très bientôt pour un autre sujet dans le cadre de Écho d'Église.
Merci.
Au revoir, chers auditeurs.
Et bienvenue à tous à la Fraternité paroissiale.
Voilà, le mot de la fin. Au revoir à tous.
Au revoir.
Jésus.